السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc cher frère en Allah Azza wa Jal, on va s'attacher aujourd'hui inshallah à traduire l'explication de Cheikh Obaid al-Jabiri hafidahullah ta'ala de la quatrième condition et des preuves de cette condition parmi les conditions de la ilaha illallah. Et conditions et preuves citées par Cheikh Abdurrahman ibn Hassan Ali Cheikh rahimahullah ta'ala. Et on était donc arrivé à la quatrième condition, inshallah, pour que les frères, et peut-être même les sœurs qui sont ici à la mosquée, après le cours qu'il reste, inshallah, j'ai une petite nasiha à faire qui n'est pas liée au cours d'aujourd'hui, inshallah. Donc, ash-shart ar-rabi', la quatrième condition. الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق ودليل الصدق قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. Donc ici l'auteur qui est Cheikh Abdurrahman ibn Hassan Ali Cheikh, car la lui fasse miséricorde, il dit la quatrième condition, la véracité, al-sidq. La véracité dont le contraire est le mensonge. Et qui empêche, qui est une barrière, qui empêche l'hypocrisie. Et la preuve de la véracité, donc après avoir donné la condition, il donne la preuve, ou la première preuve de cette condition, on va voir qu'il va donner deux versets du Coran et un hadith. Il a dit, et la preuve de la véracité, ou dalil ou sitri, c'est la parole d'Allah le Très-Haut, dont la traduction du sens est, Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Surat Al-Ankabut, verset 1-3. D'ailleurs, surat appelée par les ulama, notamment surat Al-Fitan, la surat des épreuves. Et la parole d'Allah dans la traduction du sens est, parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais le trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux à cause de ce qu'ils mentaient. Surat al-Baqarah, verset 8 à 10. Après avoir donné les deux preuves du Coran, le Cheikh Abdurrahman Hazan Ali Cheikh rahimahullah ta'ala, il donne une preuve de la sunna. Il dit, et de la sunna, ce qui était rapporté de manière authentique, dans les deux authentiques, d'après Mu'adh ibn Jabal, car il agrée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne n'attestera que nul est en droit d'être adoré à part Allah, et que Mohammed est son serviteur et son messager, en toute véracité de son cœur, sans qu'Allah ne lui interdise l'enfer. Et le hadith est rapporté par le Bukhari numéro 128 et Muslim numéro 23, donc à ce qu'on appelle un hadith muttafaqun alayh, et d'autres que le Bukhari ou Muslim, d'après la voix de Mu'adh ibn Hisham al-Dustawai, d'après son père, d'après Anas, d'après Mu'adh, car les Très-Hauts les agréent tous les deux, et la formulation est celle de Muslim. Qawluhu alif lam mim al-ayat. Cheikh Obaid al-Jabiri hafidahullah, il commence son explication, qu'elle le préserve en disant sa parole alif lam mim jusqu'à la fin des versets, c'est-à-dire la fin des versets de surat al-Ankabut. Qal al-Baghawi rahimahullah alif lam mim ahzib an-nas adhanna an-nas an yutraku bighayr ikhtibar wal ibtila an yaqulu ay bi an yaqulu amanna wa hum la yuftanun لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم كلا لنختبرنهم ليبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب إلى أن قال وقيل وهم لا يفتنون بالأوامر والنواهي وذلك أن الله تعالى أمرهم بالابتداء بمجرد الإيمان ثم فرض عليهم الصلاة والزكاة وسائر الشرائع فشق على بعضهم فأنزل الله هذه الآية ثم عزاهم فقال ولقد فتنا الذين من قبلهم يعني الأنبياء والمؤمنين فمنهم من نشر بالمنشار ومنهم من قتل وابتلي بنو إسرائيل بفرعون فكان يسومهم سوء العذاب فليعلمن الله الذين صدقوا في قولهم آمنا وليعلمن الكاذبين والله أعلم بهم قبل الاختبار ومعنى الآية وليظهرن الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه أو وليظهرن الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه انتهى محل الغرض من كلام البغوي رحمه الله في تفسيره. الشيخ عبيد الجبيري حفظه الله parle des versets de sourate Al-Ankabut et il dit l'imam al-Baghawi parmi les savants de l'exégète du Coran un imam de la Sunna qu'elle lui fasse miséricorde qui a dit Alif Lam Mim est-ce que les gens pensent qu'on les laissera sans examen ni test dire c'est-à-dire qu'ils disent nous croyons sans les éprouver sans qu'ils ne soient éprouvés dans leur bien dans leur personne certes non nous allons certes les éprouver afin que se différencie le sincère de l'hypocrite et le véridique du menteur. Jusqu'à ce qu'il dise l'imam Baghawi rahimahullah. Et il a été dit sans les éprouver, وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ c'est-à-dire par les ordres et les interdits. Et cela car Allah le Très-Haut leur a ordonné de commencer par la foi seulement, puis leur a rendu la prière et la zakat obligatoires, et le reste des législations. Et cela fut difficile à certains. Et donc Allah a fait descendre ce verset, puis les a incités à la patience en disant, ce dont la traduction du sens est, certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, c'est-à-dire les prophètes et les croyants, car certains furent sciés à la scie, mais certains furent tués, et les fils d'Israël furent éprouvés par Pharaon, qui leur infligeait le pire des châtiments. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité. En ce qui concerne leurs paroles, nous croyons. Et ceux qui mentent, et Allah est plus savant d'eux avant l'épreuve. Et le sens du verset est, et apparaîtra certes la différence entre les véridiques et les menteurs, afin que soit ce qu'ils savaient. Fin de citation du témoin argumentatif, une faïda que je cite souvent dans les cours de Mohamed Amin Shinqiti, rahimahullah, le grand savant salafi et spécialiste de l'exégèse du Coran, rahimahullah ta'ala, qui a son tafsir Adwa al-Bayan, fi tafsir al-Quran bil-Quran, qui est un tafsir du Coran par le Coran, il dit justement dans son tafsir que le mot fitna dans la langue arabe, il vient du fait de mettre l'or, c'est un processus, de mettre de l'or dans le feu afin que le pur se dissocie de l'impur. C'est dans le sens linguistique du mot fitna et l'origine du mot linguistique fitna, du mot fitna. Puis le cheikh, hafidhahullah, il continue, il dit قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الآيات c'est-à-dire les versets de sourate al-Baqarah. Il dit هذا إخبار من الله جل وعلا عما درج عليه المنافقون من إظهار الإيمان بألسنتهم وإضمار الكفر في قلوبهم مخادعة لله زعموا والمؤمنين كي يغتروا بهم ويركنوا إليهم ونتيجة العكسية لهذه المراوغة هي خداعهم أنفسهم ولكنهم لا يشعرون بذلك لفرط جهلهم وخبث طويتهم والباعث لأولئك على هذا التلون والكذب هو الشك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فالجزاء من جنس العمل. Donc Cheikh Obed hafidahullah ta'ala il continue son explication et il dit sa parole, c'est-à-dire la parole de l'auteur Abdurrahman ibn Hassan Ali Cheikh rahimahullah, le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Il dit parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier jusqu'à la fin des versets, c'est-à-dire jusqu'à la fin des versets qu'il a cité de Sourate Al-Baqarah. Il dit ceci est une information de la part d'Allah au sujet de ce que font les hypocrites qui manifestent la foi par leur langue et cachent la mécréance dans leur cœur, afin de tromper Allah, comme ils le prétendent. Et les croyants, afin qu'ils soient dupés par eux, et qu'ils se fient à eux. Et le résultat est le contraire de cette ruse. Et c'est qu'ils se trompent eux-mêmes, mais ne s'en rendent pas compte, en raison de leur ignorance excessive, et de leur mauvaise nature intérieure, de خُبْثِ طَوِيَّتِهِمْ. Et ce qui les pousse à cette versatilité, il y a ce mensonge, le mot talawun. Hein? C'est comme si c'est quelqu'un qui est versatile, une fois il est comme ça, une fois il est comme ça, hein? Le fait de changer de couleur, talawun. La versatilité, il y a ce mensonge, c'est le doute, c'est ça qui les pousse. À cette versatilité, il y a ce mensonge, c'est le doute. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Et donc la rétribution est du genre de l'acte. Ça c'est encore une preuve sur cette fameuse règle que al-jaza min jins al-amal. La rétribution est du genre de l'acte. Cheikh il dit, on continue toujours la parole, hadi 'uqubatun fi ad-dunya wa dhalika nadir qawlihi ta'ala fi kuffari bani Israil falamma zaghu azagha Allah qulubahum wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin min surah as-saff. وما عقوبة في الآخرة ففي قوله تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ونذير ما قصه الله عن المنافقين في آيات البقرة هذه قوله تعالى من سورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. Donc Cheikh Obed Hafidah Allah Ta'ala continue en disant: ceci est leur châtiment dans ce bas monde, et c'est à l'exemple de la parole d'Allah le Très-Haut au sujet des mécréants des fils d'Israël, ce dont la traduction du sens est: puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. Surat Saf, verset 5. Quant à leur châtiment dans l'au-delà, cela se trouve dans la parole d'Allah le Très-Haut, dont la traduction du sens est: ils auront un châtiment douloureux à cause de ce qu'ils mentaient. Et à l'exemple aussi de ce que Allah a dit au sujet des hypocrites dans ces versets de Surat al-Baqarah, il y a la parole d'Allah dans Surat al-Nisa. Donc là on va dans une autre surat. Surat al-Nisa, il a rapporté Surat Saf, puis il a rapporté Surat Nisa. Nisa, in Surat Nisa, il y a un exemple aussi de, par rapport au verset Surat Al-Baqarah, de ce qui a été dit sur les hypocrites. Et c'est ce dont la traduction du sens est: les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salah, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. On va voir comment Ibn Sa'di, rahimahullah, il explique ça par rapport à la paresse, l'ostentation et pourquoi ils sont comme ça. À peine invoquent-ils Allah, ils sont indécis, mudabdabin. D'ailleurs, Cheikh Adil Mansour et le Mashir du Koweït, ils avaient fait une belle daura sur ce sujet-là, le mudabdabin. Le fait d'être mudabdab, même dans le manhaj. Il y a des gens qui sont comme ça. Qui sont une fois avec les gens de la sunna, une fois avec les gens de la bid'a, ils sont ni avec ceux-là, ni avec ceux-là, etc. Et d'ailleurs, Cheikh Adil Mansour a dit une faïda. Il a dit que les textes qui sont pour les hypocrites, ils sont applicables aux gens de l'innovation, avec une différence dans le jugement. Elle a cité les salafs qui ont dit ça, etc. Donc, un dars très très important qui se trouve sur la radio Nahj al-Wadih. Il faudrait une fois le traduire, Inch'Allah, mais ça va prendre du temps, parce qu'il faut faire le tefrir, etc. Mais vraiment très très intéressant, on apprend beaucoup beaucoup de fawaid dans le manhaj. Et ya ikhwa wa akhawat, barakallahu fikum wa fikunna, étudiez le manhaj salafi. Manhaj salafi, c'est pas bil dhawq ou bien bil hawa ou bien je pense, hein, ou mon avis ou la kada. Étudier le manhaj salafi, étudier les règles et le usul, le manhaj salafi, et d'où les ulama ont tiré cela, etc., pour qu'on puisse être sur la voie salafia pure, bidnillahi ta'ala. Parce que le but d'apprendre tout ça, évidemment, c'est d'appliquer. Donc on continue ici, et le cheikh il dit, comme je dis souvent à des frères quand on discute de manhaj, je dis, mais c'est quoi notre... comment on a travaillé notre salafi? Ça fait combien d'années qu'on est salafi? Quelle cassette on a écouté? Quel audio on a écouté? Quel livre on a fait dans le manhaj salafi? Quelles règles on a appris? Quel fondement on a appris? Quel dalil de tout ça on a appris, etc. Et puis après, quand on a appris, qu'est-ce qu'on a mis en application? Donc ici, on continue, le cheikh, il dit, ils sont indécis, par rapport au tabdabdoub qu'on avait dit, là, le fait d'être mutabdabin, ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or, quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Et c'est surat Nisa, versets 142 et 143. Ibn Sa'di rahimahullah, Cheikh Abdurrahman Nasr al-Sa'di rahimahullah, le grand savant et exégète du Coran contemporain parmi les chouyours de Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit qu'Allah Ibn Sa'di rahimahullah yukhbiru ta'ala anil munafiqin bima kanu alayhi min qabihi s-sifat wa shana'i s-simat wa na tariqatahum mukhada'atullahi ta'ala ay bima azharuhu min al-iman wa abtanuhu min al-kufran dhannu annahu yurawiju ala Allah wa la ya'lamuhu wa la yubdihi li'ibadih. والحال أن الله خادعهم بمجرد وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليها ومشيهم عليها خداع لأنفسهم وأي خداع أعظم ممن يسعى سعيا يعود عليه بالهوان والذل والحرمان ويدل بمجرده على نقص عقل صاحبه حيث جمع بين المعصية ورآها حسنة وظنها من العقل والمكر. فلله أو فلله ما يصنع الجهل والخذلان بصاحبه ومن خداعه لهم يوم القيامة ما ذكره الله في قوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم إلى آخر الآيات من سورة الحديد. Donc le cheikh, il commence cette parole d'Abdurrahman Nasser al-Sa'di rahimahullah ta'ala en disant « Allah le Très-Haut informe au sujet des hypocrites quant à ceux sur lesquels ils sont en termes de détestables attributs et de vilaines caractéristiques, qu'Allah nous en préserve, et que leur méthodologie est de vouloir tromper Allah. Il faut avoir peur de l'hypocrisie, il ne faut pas qu'on se sente sauf et exempt de l'hypocrisie, il faut avoir peur, il faut demander à Allah qui nous préserve. Et il faut apprendre ces caractéristiques pour les éviter. Les salafs, ils avaient peur de l'hypocrisie. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, wa arda, mubashar bil jannah, à qui le paradis a été annoncé. Il a dit aux sahabi qui connaissaient le nom de Munafiqin, c'est qui? Hudayfa. Hein? Parce qu'il a vu que Hudayfa, il ne se levait pas pour des janaïs de certaines personnes, pour suivre certaines janaïs. Il a dit, ya Hudayfa, anshuduka billah. Ça veut dire en arabe, je te demande par Allah. Est-ce que moi je suis parti des hypocrites? Le hadith il a dit, la, wa la ubarri'u ahadan ba'daka. Et je n'y sentrai personne après toi. Et qu'est-ce qu'on nous va dire? Omar ibn Khattab, regardez, radiallahu anhu arda. Hein? Qu'est-ce qu'on nous va dire? Il dit ici, et de vilaines caractéristiques, et leur méthodologie est de vouloir tromper Allah. C'est-à-dire, parce qu'ils ont manifesté en apparence comme foi, et caché en leur sein comme mécréance. Ils ont pensé que cela ferait valoir auprès d'Allah, et qu'il ne le sait pas, et qu'il ne le montrerait pas à ses serviteurs. Et la situation est qu'Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes, dès la présence de cette situation de leur part. Et le fait qu'ils soient dans cette situation est une tromperie envers eux-mêmes. Et quelle tromperie plus grande que celle de celui qui s'efforce à quelque chose, qui se retourne contre lui par la honte et l'humiliation et la privation. Il dit, وَمِنْ صِفَاتِهِمْ أَنَّهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي أَكْبَرُ الطَّاعَاتِ الْعَمَلِيَةِ إِنْ قَامُوا قَامُوا كُسَالَى مُتَثَاقِلِينَ لَهَا مُتَبَرِّمِينَ مِنْ فِعْلِهَا والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوبهم فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله وإلى ما عنده عادمة للإيمان لم يصدر منهم الكسل. شيخ حفظه رحمه الله شيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى continuant disant et cela indique en soi-même la déficience. Non, j'avais laissé un passage, ben c'est bien, on traduit tout maintenant, c'est pas grave. Et cela indique en soi-même la déficience de la raison de celui dont tel est le cas. Car elle regroupe la désobéissance et la voit comme une bonne chose et pense que cela fait partie de la raison et la ruse. Comme est étonnant ce qu'au fond l'ignorance et le lâchage à celui qui les possède. Et fait partie de ce que Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes le jour du jugement dernier, ce qu'Allah a dit dans sa parole, dont la traduction du sens est « Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. » Il sera dit « Revenez en arrière et cherchez de la lumière. » C'est alors qu'on éleva entre une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment, c'est-à-dire l'enfer. N'étions-nous pas avec vous, leur crieront-ils ? Sourate al-Hadid, versets 13 à 14, jusqu'à la fin des versets. Et parmi leurs caractéristiques des hypocrites, c'est que lorsqu'ils se lèvent, regardez cette caractéristique, a'udhu billah, et qu'on fasse attention qu'elle ne fasse pas partie de nous, hein, qu'on n'ait pas cette caractéristique. Lorsqu'ils se lèvent pour la prière, qui est l'acte d'obéissance parmi les actions le plus important, ils se lèvent avec paresse, à contre-cœur quant à la prière, et éprouvant de la lassitude quant à l'accomplissement de la prière. Et la paresse, Cheikh Abd al-Rahman ibn Sa'd al-Rahman, il explique maintenant d'où vient cette paresse. Il dit, et la paresse n'est qu'en raison de l'absence de volonté dans leur cœur, car si leur cœur n'était pas vide de volonté envers Allah et ce qu'il a auprès de lui, et qu'il n'était pas vide de foi, la paresse n'aurait pas émané d'eux. Tout à l'heure, on a dit qu'il est l'acte d'obéissance parmi les actions les plus importantes s'il se lève. S'il se lève. In qamu, il a dit le chéri. Puis après, on revient à la parole, il dit la paresse n'aurait pas émané d'eux. Puis il continue ici en arabe et il dit يراؤون الناس أي هذا الذي انطوت عليه سرائرهم وهذا مصدر أعمالهم مراءة الناس يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم واحترامهم ولا يخلصون لله. C'est-à-dire et par ostentation envers les gens. Hein? Il s'élève avec paresse et par ostentation envers les gens pour prier. C'est-à-dire voilà ce qui est dans leurs forces intérieures et voilà la source de leurs actions. Leur intention et l'ostentation envers les gens et leur respect. Ils ne sont pas sincères envers Allah. C'est-à-dire que les gens les respectent. Ils les voient prier. Ils ne sont pas sincères envers Allah. C'est par ostentation. Et c'est pour cela que وَلِهَذَا قَالْ وَلِهَذَا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا لِامْتِلَاءِ قُلُوبِهِ مِنَ الرِّيَاءِ فَإِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى وَمُلَازَمَتَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ مُؤْمِنٍ مُمْتَلِئْ قَلْبُهُ بِمَحَبَّةِ اللَّهِ وَعَظَمَتِهِ مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء أي مترددين بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين فلا من المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا من الكافرين ظاهرا وباطنا أعطوا باطنهم للكافرين وظاهرهم للمؤمنين وهذا أعظم ضلال يقدر. دوك شيخ الديسي رحمه الله تعالى et c'est pour cela que à peine invoque-t-il Allah. Car leurs cœurs sont pleins d'ostentation. Le dhikr et le fait de s'y attacher ne peut émaner que d'un cœur croyant qui est rempli d'amour d'Allah et de la grandeur d'Allah. Ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres, c'est-à-dire indécis, mudabdabin, entre le groupe des croyants et le groupe des mécréants. Ils ne font pas partie des croyants qui sont croyants intérieurement extérieurement, ni des mécréants qui sont mécréants intérieurement extérieurement. Comprenez ça pourquoi? Parce qu'ils montrent la foi, mais ils cachent la mécréance. Ils ont donné leur intérieur aux mécréants et leur extérieur aux croyants. Et cela est le pire des égarements possibles. Et c'est pour cela qu'Allah dit ce dont la traduction du sens est « Or, quiconque Allah égare, وَلِهَذَا قَالْ وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا أَيْ لَنْ تَجِدَ طَرِيقًا لِهِدَايَتِهِ ولا وسيلة لترك غوايته لأنه انغلق عنه باب الرحمة وصار بدله كل نقمة فهذه الأوصاف المذمومة تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضدها من الصدق ظاهرا وباطنا والإخلاص وأنهم لا يجهل ما عندهم من النشاط في صلاتهم وعبادتهم وكثرة ذكرهم لله تعالى وأنهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين وليختر أيها أولى به والله المستعان وبذلك انتهى كلام ابن سعدي رحمه الله من تفسيره. Donc le cheikh Abd al-Rahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah ta'ala, il continue cette explication de quel verset, de quelle sourate, sourate Nisa. Il dit et c'est pour cela qu'Allah dit ce dont la traduction du sens est: or, quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui, c'est-à-dire tu ne trouveras jamais une voie pour le guider ni un moyen afin qu'il délaisse son égarement, car la porte de la miséricorde lui a été fermée et à sa place il y a toute calamité. Ces caractéristiques blâmables indiquent par leur avertissement que les croyants sont caractérisés par le contraire de cela, qui est la véracité intérieurement et extérieurement et la sincérité, et que n'est pas inconnu ce qu'ils ont en termes de dynamisme, de nashat, dans leur prière et de leur et leur adoration et de leur multitude de dhikr d'Allah le Très-Haut, et qu'Allah les a guidés et leur a facilité le droit chemin. Et que donc, celui qui est doté de raison se place devant ces deux choses et qu'il choisisse celle des deux qui est le plus en droit à son sujet, et c'est dans la seule que nous implorons l'aide. Fin de citation de l'imam Abd al-Rahman Nasr al-Sa'di rahimahullah dans son tafsir, page 217-218. C'est-à-dire le tafsir surat Nisa, les versets qu'on a cités 142-143, si je me souviens bien. À la kulli hal, sa parole, le Cheikh continue, ta'ala, donc il expliquait maintenant les versets du Coran qui sont la preuve de cette quatrième condition, qu'il sidq, la véracité, contraire à quoi? Au mensonge, et qui est une barrière qui empêche l'hypocrisie. D'accord? Donc maintenant il va expliquer, après avoir expliqué les versets du Coran, il y avait un verset de surat Al-Ankabut, puis des versets de surat Al-Baqarah, qu'elle expliquait surat Al-Ankabut, puis elle expliquait surat Al-Baqarah, qu'elle expliquait surat Al-Baqarah, les versets, il a cité un exemple dans surat Al-Nisa. Et là il est arrivé aux preuves de la sunna, ou à la preuve de la sunna, c'est la parole de l'auteur Abd al-Rahman Hassan al-Sheikh rahimahullah. قَالُهُ وَمِنَ السُنَّةِ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مُعَادِ بْنِ جَابِرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ رَحِمَهُ. Donc, Cheikh, il dit, Cheikh Abou al-Jabiri, il dit, je dis, et il est comme il a dit, pardon, sa parole est de la sunna, ce qui était rapporté de manière authentique dans les deux authentiques, c'est-à-dire Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim, d'après Mu'ad ibn Jabal, qu'elle a l'agré que, jusqu'à la fin de sa parole. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Abou al-Jabiri, hafidahullah, et il est comme il a dit, قلت وهو كما قال, فقد أخرج الشيخان برواية أنس عن معاد ولفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل. Ici, le Cheikh l'Éthiopie dit que tu peux dire les deux. Tu peux dire يا معاذ بن جبل ou يا معاذ بن جبل. Tu peux dire avec dhamm ou avec nasb. Il y a une explication par rapport à ça. Il a cité notamment dans le khulasa, etc. À la kulli hal. قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ. قال لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ونفع محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. وأخبر بها معاد عند موته تأثما. انتهى كلام انتهى كلامه رحمه الله في غفرانس à la parole de l'imam Bukhari رحمه الله. Donc la sunna, la preuve de la sunna, et c'est un hadith qui est rapporté par les deux cheikhs, Bukhari et Muslim. Et donc il dit qu'il est comme il a dit, c'est-à-dire comme l'a dit Abd al-Rahman al-Sheikh, c'est qu'il est effectivement un hadith muttafaqun alayh, rapporté par les deux cheikhs, Bukhari et Muslim, d'après la narration d'Anas, qui rapporte de Mu'ad, qu'elle les agrée tous deux. Et la formation d'Al-Bukhari est la suivante, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Mu'ad étaient en groupe derrière lui sur la monture, radif. Un radif, c'est-à-dire que on peut dire, certains ulama disent ridfa, c'est-à-dire que tu es en croupe sur une monture derrière quelqu'un. Il a dit, oh Mu'ad ibn Jabal, il répondit, labbayk ya Rasulallah wa sa'adayk. Pas mal d'explications par rapport à labbayk wa sa'adayk. Nous on va traduire ça par je te réponds, réponse après réponse. Ijabatan ba'da ijaba. Comme dit Cheikh al-Ethiopie, oh messager d'Allah et j'aide après aide. Trois fois. Trois fois. Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit personne n'attestera que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, et que Muhammad est son serviteur et son messager, en toute véracité de son cœur. C'est ça le témoin argumentatif ici de ce hadith, comme on va le voir plus tard, inshallah, sans qu'Allah ne lui interdise l'enfer. Il dit, au messager d'Allah, n'en informerai-je pas les gens afin qu'ils s'en réjouissent? Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit, donc ils compteront là-dessus, ils se fieront à cela, il y a tekilo. D'accord? Ça veut dire, ils délaisseront les actions. Et donc, ne leur annonce pas la bonne nouvelle, afin qu'ils ne comptent pas sur cela et fassent des efforts dans les actes d'adoration. C'est ça que ça veut dire, en fait, comme les ulémas ont expliqué. Ou bien, la tubashirun fayat tekilo. Hein? Et Mu'ad informa au sujet de ce hadith, au moment de sa mort, comme dit en arabe, ta'athuman, ay khurujan min al-ithm, afin de ne pas être en état de péché. Fin de citation de l'imam Bukhari, rahimahullah. Puis le cheikh, il dit, wa shahid min al-hadith, qawluhu, sidqan min qalbihi. Et le témoin argumentatif de ce hadith est sa parole, en toute véracité de son cœur. Ici, un point que je voudrais faire pour les frères qui veulent tlab l'ilm, c'est que quand on étudie une mis'ala, il faut étudier dalil, il faut étudier aussi ce qu'on appelle wajl istidlal. C'est-à-dire que le cheikh, il te rapporte une condition de la ilaha illallah. D'accord? Il te rapporte les preuves. Il te rapporte des versets de Surat al-Ankabut, des versets de Surat al-Baqarah. Il te rapporte un hadith. Maintenant, il faut savoir comment ces preuves sont une preuve pour ce qu'il a avancé comme condition. Tu comprends? C'est-à-dire que maintenant, tu dis, voilà, la véracité, c'est une condition. C'est quoi ton dalil? Tu cites les versets, tu cites le hadith. Et le hadith, en quoi c'est une preuve pour ce que tu as avancé comme condition? Eh bien voilà, le hadith est dans le hadith, il y a un moment où il dit en toute véracité de son cœur, sidqan min qalbihi. Et c'est ça le témoin argumentatif pour lequel le hadith il indique que la véracité est une condition de l'attestation de la ilaha illallah. D'accord? Ça c'est important comme méthodologie à voir. Maintenant il cite une parole de l'hafid. Quand les ulama disent l'hafid et qu'ils disent pas c'est qui, c'est qui? Le Hafid Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dans Fath al-Bari souvent. Quand le Hafid, d'ailleurs, pourquoi il va citer Fath al-Bari ici? Parce qu'il cite un hadith dans Sahih al-Bukhari. Quand le Hafid, sidqan, fihi ihtiraz an shahadat al-munafiqa. Le Hafid Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, il a dit, sidqan al-qalbihi, en toute véracité de son cœur, il y a en cela une précaution, ce qu'on appelle un ihtiraz dans la langue arabe. Hein? Vous entendez souvent les ulama, ils parlent d'un qaid ihtirazi. C'est-à-dire qu'il y a une définition, il y a une condition qui est une précaution pour que ce qui ne doit pas rentrer dans la définition ne rentre pas dans la définition. Ce qu'on appelle en arabe un qaid ihtirazi. Donc il y a en cela une précaution quant à l'attestation de l'hypocrite. D'accord? Parce que quand on dit sidqan min qalbihi, qui sort de ce hadith-là alors? L'hypocrite, il n'est pas, son attestation n'est pas considérée. Ça, oulala. Parce qu'on a mis cet ihtiraz. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sidqan min qalbihi. C'est pas nous qui l'avons mis, vous avez compris, c'est dans le hadith. Sidqan min qalbihi, donc, c'est une précaution quant à l'attestation de quoi? De qui? De l'hypocrite. Parce que l'hypocrite, justement, il ne dit pas ça. Sidqan min qalbihi. Ça va? Et la référence ici, c'est Al-Fath d'Ibn Hajar, volume 1, page 243. قلت أي القائل شيخ عبيد حفظه الله تعالى وبهذا يظهر لك تطابق الحديث مع ما أورده المصنف من الآيات قبله على رد الشهادة إذا لم يجتمع مع لفظها اعتقاد القلب. Ça c'est important, très important de comprendre ici. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Abel Jabiri Hafidah Allah, et par cela t'apparaîtra la conformité du hadith avec ce que l'auteur a cité en termes de versets avant lui, c'est-à-dire avant le hadith. Quant au rejet de l'attestation lorsqu'elle ne réunit pas la croyance du cœur avec sa formulation. Et c'est pour ça que c'est une condition. Et les ulama disent, وَإِذَا فُقِدَ الشَّرْطِ فُقِدَ الْمَشْرُوطِ. Et si la condition n'est pas là, c'est pour lequel cette condition a été mise, elle n'est pas là non plus. D'accord? Vous suivez ou pas? Je répète cette phrase, et par cela t'apparaîtra la conformité du hadith avec ce que l'auteur a cité en termes de versets avant lui, quant au rejet de l'attestation, lorsqu'elle ne réunit pas quoi? La croyance du cœur avec sa formulation. Il faut les deux. وَقَدْ أَكْذَبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَرَدَّ قَوْلَهُمْ مَعَ تَصْرِيحِهِ بِالشَّهَادَةِ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم بِالرِّسَالَةِ إِذْ كَانَ ذَلِكَ مَقْصُورًا مِنْهُمْ عَلَى النُّطْقِ بِالْأَلْسُنِ فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Donc, et Allah a démenti les hypocrites et a rejeté leurs paroles malgré qu'ils ont attesté de manière explicite du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car cela se limite de leur part à la formulation par la langue. Et donc, Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens est, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons, vous avez entendu, hein? Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Donc ils n'ont pas sidr, ils ont le mensonge, le contraire de sidr. Pourquoi? Parce qu'ils disent avec de leur langue ce qu'ils n'ont pas dans leur cœur. Donc l'attestation n'est pas acceptée. Surat al-Munafiqun, verset 1. وفي الحديث فوائد غير ما تقدم منها جواز تخصيص المعلم بعض تلاميذه بمسائل من العلم بمسائل من العلم دون الآخرين إذا خشى عدم فهمهم لها وعليه بوب البخاري رحمه الله فقال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا في كتاب العلم الصحيح البخاري رحمه الله. Cheikh, en plus, dans ce hadith, en plus de ce que nous avons vu, il rapporte d'autres bénéfices, d'autres enseignements. Il dit, il y a dans le hadith comme bénéfice, en plus de ce qui a été cité précédemment, regardez le fahm des ulama, l'autorisation pour l'enseignant d'enseigner à certains de ses élèves des points de la science, sans les enseigner aux autres, à d'autres, s'il craint qu'il risque de ne pas les comprendre. Et l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a donné comme titre de chapitre à ce sujet. Ici, là, déjà, vous devrez être capable maintenant de savoir pourquoi il a dit ça. Pourquoi? Quelqu'un veut se lancer? Je vois des lèvres qui bougent, qui se referment. Des lèvres qui... C'est une hésitation. J'ai peur, ce micro.
En fait, il y a un mal de ne pas dire aux gens.
Hassan, c'est ça. Il l'a dit au Mu'alim Jabal et puis il l'a dit la tubashirun fi yattakilu ou idan yattakilu, hein? Et que le Mu'alim Jabal, il a dit le hadith au moment de mourir pour que les gens connaissent ce hadith. D'accord? Ce qui arrive de nombreuses fois chez les sahaba, quand c'est des hadiths qui ne sont pas liés à quelque chose qui est parmi les actions ou etc. Tu vois. D'accord. Charlie Tchouk, il dit ça dans son explication de Sahih Muslim. Et donc, l'imam Bukhari a écouté ce titre de chapitre, a donné comme titre de chapitre à ce sujet, chapitre de celui qui donne une science de manière spécifique à certains, sans la donner à d'autres, par crainte qu'ils ne comprennent pas. Et vous comprenez maintenant pourquoi les ulama ont dit sur l'imam Bukhari, « Fiqh al-Bukhari fi tarajumihi ». L'imam Bukhari, il a compilé un livre de hadith. Mais l'ulama dit, sa compréhension, son fiqh, il est dans les titres des chapitres. Fiqh al-Bukhari fi tarajumihi. Deuxième faïda. Wa minha, c'est une règle très très importante ça. Wa minha, anna dar al-mafasidi muqaddamun ala jalbi al-masalihi. Wa maradu dhalika ila shar'i la ila al-aql. ومع قيام الدليل القطعي من الكتاب والسنة على هذا الجانب العظيم فقد غفل عنه كثير من الناس ولا يفقهه حق الفقه إلا من كان على سنة محضة والله المستعان. Deuxième bénéfice en plus tiré de ce hadith, le hadith de qui? De Mu'ad ibn Jabal, qui est rapporté par Anas de lui, etc. Qu'Anas rapporte de Mu'ad, qui rapporte du prophète alayhi salatu wassalam. Repousser un mal prévaut sur l'obtention d'un bien. Règle très 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 importante. Et puis il y a des autres règles qui découlent de ça aussi, et qui tournent autour de ça. Voir notamment par exemple le Qawa al-Fiqhiya de l'imam Sa'di lui-même, expliqué par Cheikh Roubaix al-Jabiri. Ça, c'est un livre très important pour un talib ilm à faire, qui est beaucoup dans ce qu'on appelle Qawa al-Fiqhiya. Cheikh Roubaix al-Jabiri l'explique vraiment d'une manière très très facile. Et le livre, il n'est pas très gros. Repousser un mal prévaut sur l'obtention d'un bien. Et à ce sujet, on revient à la législation islamique et pas à la raison. Et malgré l'existence des preuves catégoriques du Coran et de la Sunna, quant à ce sujet d'une haute importance, beaucoup de gens ont été négligents à ce sujet et ne le comprennent avec vraie compréhension que celui qui est sur une Sunna pure et c'est la seule dont nous appellerons l'aide. Alors pourquoi c'est un bénéfice tiré du hadith? Qui sait me dire ça? Ça, c'est un peu plus difficile que le premier. Mais, alhamdoulilah, c'est possible. Pourquoi?
Si si certaines personnes ils sont au courant de, du fait que si des la et la Elohim ils vont rentrer au paradis directement, ils vont peut-être délaisser certains actes qu'ils faisaient avant. Et Yanni, c'est ce qui peut amener à repousser ce mal-là.
D'accord. Et c'est bien, t'es bien parti. Sois plus précis maintenant. Et donc, le fait de dire que t'es un bien, mais aussi, il y a, par rapport à ce que tu viens de dire, qui est à prendre en considération, donc le fait de repousser un mal prévaut sur le fait de, d'obtenir un bien. D'accord. Vous avez compris ça. Avec cela, on a fini pour la quatrième condition. Et normalement, le dimanche prochain, c'est pas encore Ramadan. Donc on devrait avoir cours. Pendant Ramadan, je pense qu'il n'y aura pas cours. Parce que c'est ce qui se passe en général. Alors, si on court, on fait de toute façon. Mais en général, je sais que les frères ici à la mosquée, ils arrêtent les cours pendant Ramadan. Les cours qu'ils ont d'habitude, ils font d'autres cours après Tarawih, etc. Mais on se tient au courant de toute façon, Inch'Allah. Donc la semaine prochaine, on devrait faire la cinquième condition. Je pense que d'ailleurs, l'explication, elle est un peu plus longue. Si je me souviens bien. Ouais, elle est peut-être un peu plus longue que la quatrième en tout cas. والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.